Lisons dans le psaume 51 à partir du verset 3. Donc c'est le psaume de David après qu'il fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, fais ma grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Et maintenant, la partie qui nous concerne ce matin, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Je vais faire une deuxième lecture avant de commencer le message qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 13. C'est la nuit avant la mort de notre Seigneur Jésus. Et Jésus enseigne par un geste concret, et il fait une sorte de parabole en action pour enseigner à ses disciples leur besoin de son pardon constamment renouvelé, qu'il soit constamment lavé par lui après son départ. Avant la fête de Pâques, verset 1 du chapitre 13, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura, comme un esclave serait habillé. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit: « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds? » Jésus lui répondit: « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit: « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Il parle de Judas. Vous pouvez bien voir que celui qui s'est baigné, ça veut dire celui qui convertit et justifié, prenant ses justes, il n'a pas besoin d'être rejustifié chaque fois qu'il pêche. Il a besoin juste de laver le péché qu'il a commis. Nous sommes en train de parler depuis la semaine passée du réveil de l'Afrique de l'Est. Ce réveil formidable qui a commencé en 1929 et qui a continué pendant des décennies vraiment à toucher Ouganda, Burundi, Rwanda, Tanzanie, Kenya, et d'autres pays beaucoup plus loin. Très étonnant. Et nous avons vu que le message du réveil, ce que ces chrétiens africains avaient appris dans un premier temps, c'était le brisement. Autrement dit, que le chrétien, comme ce psaume dit plus loin, ce que Dieu veut, ce n'est pas des sacrifices, mais c'est un cœur contrit et brisé. Et donc ce cœur brisé, nous avons dit, c'est le cœur du chrétien qui, quand il pêche, n'a pas d'excuses, n'a pas le cou raide, n'est pas rempli de justice propre en disant que oui, mais j'ai été provoqué, c'était plus fort que moi, c'était les circonstances, c'était... Il prend la place du criminel. Il dit, c'est moi. Je reconnais mes péchés. Mes péchés sont toujours devant moi, David dit. Et ce brisement, c'est vraiment l'homme ou la femme orgueilleux que vous êtes qui descend et qui prend tout simplement la place du pécheur coupable devant Dieu sans excuse, qui a besoin simplement du pardon. Ça, c'était la première leçon du réveil. Et les chrétiens en Afrique de l'Est avaient compris que ça, c'est toute la vie. On fait ce retour à la croix. Ce retour devant la croix de mon Sauveur qui a été brisé à cause de moi et qui, lui, n'avait pas le cou raide. Il n'a pas ouvert la bouche pour protester, mais il a été contrit à cause de mes péchés. Contrit et brisé. Et à la vue de la croix, moi je dis, je ne peux plus dire que ce n'était pas ma faute. Une leçon que nous devons continuer à apprendre toute notre vie chrétienne et sans laquelle nous ne pouvons pas marcher avec Christ ou même être chrétien. D'ailleurs, beaucoup de gens dans ces églises à Rwanda, Ouganda, se sont convertis, ont réalisé qu'ils n'étaient pas chrétiens. Parce que vous aviez dans ces églises beaucoup de gens qui pouvaient pécher toute leur vie, qui pouvaient être irritables, qui pouvaient ne pas faire confiance au Seigneur, qui pouvaient vivre dans la crainte ou la peur et dans l'égoïsme, refuser d'être un témoin pour Christ et de dire la vérité aux gens, et puis simplement dire, c'est pas grave. Ça ne me brise pas. Ça ne me perturbe pas de jour en jour dans ma vie. Jésus pardonne. Et ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas pardonnés. Parce que Dieu pardonne le pécheur brisé. Le pécheur qui voit que son péché est grave. Et mènerait à l'enfer sans le sang de Jésus-Christ. Et donc ces gens se sont vraiment convertis. Avec ce rappel de la semaine passée, nous allons parler maintenant de la deuxième leçon de ce réveil. La première était la victoire de Jésus sur nous en nous amenant au brisement. Aujourd'hui, je veux vous parler de la victoire de Jésus pour nous en nous amenant le pardon. D'accord? Parce qu'il n'est jamais la volonté de Dieu que toi ou moi, nous soyons là, laissés au pied de la croix, se lamentant, plein de tristesse, dans le deuil au sujet de nos péchés. Dieu veut que nous soyons brisés afin qu'il nous amène à voir la merveille de la grâce pardonnante de Dieu qui bouleverse tout, qui change tout pour le pécheur et qui l'amène dans la joie et la paix de Dieu. C'est là où Dieu veut vous amener. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc je vais relire les versets 9, 10 et 11 du psaume et nous allons essayer de comprendre cela. Purifie-moi avec l'hyssope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. C'est un homme qui vient de tuer quelqu'un et de prendre sa femme. il y a quelques mois avant. Et il demande à Dieu, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront, détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Les chrétiens de l'Afrique de l'Est le considéraient un grand péché de rester dans la tristesse au sujet des péchés une fois qu'il s'était repenti pour ses péchés. Il pensait que c'était un autre péché que de ne pas arriver à la joie et la paix du pardon. Parce que c'était de refuser de croire que Jésus-Christ et son œuvre sur la croix est plus grand que mon péché. Pour eux, c'était une immense arrogance de penser que moi, je suis capable de produire quelque chose, un péché qui est plus grand que le Seigneur Jésus lui-même. C'est incroyable ce que nous faisons, n'est-ce pas? Et une des choses qui marquait la vie de ces chrétiens dans le réveil, c'était de leur joie incroyable au sujet du pardon que nous avons par le sang de Jésus. Pour eux, c'était le miracle des miracles d'être racheté, d'être pardonné, d'être plus blanc que la neige. Et un pasteur anglais qui s'est rendu en Afrique de l'Est en 1950 pour voir de ses yeux le réveil, parce que il avait été bouleversé, sa vie avait été complètement changée par des gens du réveil qui étaient venus rendre témoignage quelques années avant en Angleterre. Donc il est allé et il a écrit des années après dans son autobiographie ceci. La deuxième chose qui m'a frappé dans ce voyage en Afrique de l'Est, c'était l'énorme hymne de louange qui monte tout le temps au Seigneur Jésus. L'esprit de louange et de joie envers Jésus est probablement l'une des caractéristiques les plus grandes de ce réveil. Encore et encore, les prédications seraient interrompues par le refrain des louanges africaines éclatant des cœurs remplis de la vision de la gloire de l'agneau et son sacrifice. Tukutanderesa, Yesu, Yesu Omwana, Gwandiga, c'est un refrain en swahili qui loue Jésus, l'agneau de Dieu, pour son sang qui purifie du péché. Je suis en train de citer cet homme encore. Un refrain qui est chanté partout. À la fin du culte, alors que les grandes foules se retiraient lentement de l'église anglicaine, le même refrain s'emparait de toute la compagnie. Et quand ils ont quitté l'église, c'était seulement pour se tenir dans une grande foule et louer, louer Christ encore pour son sang versé et le pardon complet. J'étais parfois, dit ce monsieur, proche des larmes quand je regardais cette louange à Jésus pour la rédemption accomplie par son sang versé. Et je pensais combien ça devait être précieux pour lui. Il continue et dit, on pourrait penser que c'était juste l'émotivité africaine et donc superficielle. Loin de là, j'ai réalisé quelque chose de la profondeur spirituelle de ces âmes quand j'ai été présenté à l'un d'entre eux qui parlait anglais et qui a déclaré Roy Hessian. Donc ça c'est le nom de l'anglais. Je suis si heureux de vous rencontrer. Nous avons lu votre livre Le chemin du calvaire et nous l'avons beaucoup apprécié. Nous aimons toujours rencontrer l'auteur d'un livre qui nous a aidés afin de savoir s'il est un homme brisé. Par brisé, j'ai fini par comprendre qu'il voulait dire la disponibilité d'un homme à prendre sa place comme pécheur sur n'importe quel point où Dieu le lui indiquait. Rien de très superficiel là-dedans. C'est pas de l'émotivité parmi ces gens. Voilà, donc nous voulons essayer de comprendre le secret qu'ils ont compris de leur joie. Et donc, je vais vous donner quatre points, mais assez bref ce matin. Le premier, c'était que nous avons un pardon glorieux parce que ce pardon vient de Dieu, très simplement. Alors, quand nous regardons le psaume 57, nous voyons qu'il dit, Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ça, c'est le verset 9, pardon, je pense. Oui, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alors, voilà ma question à vous. Plus blanc que la neige aux yeux de qui? Alors, ce n'est pas nous qui nous considérons plus blanc que la neige. En tout cas, notre regard n'est pas le souci de David. Dans le verset 11, regarde, il parle du regard de qui? Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Vous savez, chers amis, ce qui compte, ce n'est pas la manière dont tu regardes tes péchés ou tu te regardes. Ton attitude envers tes péchés, ton péché, si tu as la paix ou pas, c'est peu de choses. Ce qui est grave pour vous éternellement, c'est l'attitude dans le cœur de Dieu envers toi et tes péchés. Si il veut tirer vengeance, ou bien si l'attitude de Dieu change envers toi. Le pardon, ce n'est pas le chrétien qui se sent mieux au sujet de ce qu'il a fait. Ce n'est pas un changement dans mon attitude. Ce n'est pas le pardon, ce n'est pas ma conscience est apaisée. Ce n'est pas le pardon. Le pardon ne se passe pas à l'intérieur de moi. Le pardon est quelque chose qui se passe dans le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que nous chantons « Ô bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. » N'est-ce pas? Et quand nous sommes pardonnés, ce qui faisait chanter les chrétiens africains, c'était la merveille que Dieu lui-même n'est plus du tout irrité. Que son attitude, il est tellement satisfait par le sang de Christ, par le sacrifice de Christ, par ce que Christ fait pour réparer, pour satisfaire la justice, pour régler nos péchés, que Dieu lui-même n'est plus irrité et que nous sommes plus bons que la neige à ses yeux, même quand nous ne le sommes pas à nos yeux. Même quand mon cœur me condamne encore, et je peine à croire que mon pardon peut être aussi grand, aux yeux de Dieu, je suis plus blanc que la neige. Ça, c'est le premier point. Deuxième, notre pardon est un pardon glorieux parce qu'il fut procuré par le sang du Fils de Dieu. Alors, nous lisons dans le verset 9 du texte, « Purifie-moi avec l'hysope. Lave-moi. » Alors, David fait allusion à un rite dans l'Ancien Testament. Je vous lis quelques versets du livre de Nombres, chapitre 19. Ne tournez pas. Je vais juste faire une sélection de quelques phrases pour que vous compreniez. « Qu'il t'amène une vache rousse, donc la couleur du sang, sans malformation, sans défaut, et qu'il n'ait pas porté le joug. On l'égorgera devant lui, devant le grand sacrificateur. On consumera la vache sous ses yeux, par le feu, complètement. On consumera sa peau, sa chair et son sang, ce qui est assez exceptionnel. Normalement, le sang est pris et versé autour de l'autel. Mais ici, tout doit être... Un homme pur recueillera la cendre de la vache. Parce qu'une fois que tout est brûlé, il y a quoi? Il y a des cendres. Afin d'en faire une eau contre la souillure, contre le péché. On prendra pour celui qui est impur de la cendre et l'on mettra dessus de l'eau courante dans un récipient. Un homme pur prendra de l'hysope. Oh voilà, prendra de l'hysope. Et la trempera, l'hysope c'est une plante avec des tiges, elle la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la personne qui a péché, Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur et il sera pur. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. David dit. Alors, qu'est-ce que nous devons apprendre au sujet de la mort de Jésus par ce rite? Alors, les cendres, c'est quoi? Les cendres, c'est tout ce qui reste quand il y a eu un jugement de feu et que le feu a fait tout son travail et que le feu n'est plus. Les cendres, c'est une sorte de signe qu'il y a un feu du jugement qui est fini, qui n'est plus. Qui s'est dépensé? Qui a jugé le péché et maintenant, ayant complètement jugé le péché, plus de condamnation, plus de colère, plus de feu. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant contre le péché, contre mes péchés, contre vos péchés. Mais par ce rite, nous apprenons que ce feu de la colère de Dieu a frappé le Fils de Dieu. Et que il n'y a plus rien sauf les cendres, pour ainsi dire. Quand nous parlons du sang de Jésus, qu'est-ce que nous voulons dire? Est-ce que nous voulons dire que le liquide littéral du sang de Jésus a une puissance magique pour pardonner? Non. Quand nous parlons du sang de Jésus, nous parlons du sang comme un objet qui nous témoigne qu'il y a eu un jugement qui est descendu sur le Fils de Dieu. Tout le jugement de Dieu contre notre péché, tout le feu, et qu'il a été écrasé. Il était transpercé à cause de nos péchés, hein, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les chrétiens en Afrique de l'Est étaient joyeux parce qu'ils voyaient que notre pardon n'est pas un pardon qui est procuré par nous. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Celui qui est pur asperce celui qui est impur. Nous ne faisons que recevoir quelque chose qui est tout divin. Rappelez-vous que Jésus a porté toute la culpabilité lui-même. Le travail est achevé. Le sang de Christ en est témoin, comme si c'était des cendres. Le feu est fini. Et ça ne vient aucunement de quoi que ce soit que nous devons contribuer, et ça les réjouissait. Pourquoi? Parce que s'il y avait quoi que ce soit que je devais faire, ou vous, nous sommes finis. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans cette nuit avant la mort de Jésus. Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'as aucune part avec moi. Mais ça sous-entendu que mon œuvre est tellement grande. Que si moi, le Fils de Dieu, devienne l'agneau de Dieu, ce pardon que je procure lave de tout péché. Troisièmement, le pardon que nous avons est un pardon glorieux, non seulement parce que c'est Dieu qui pardonne, et le pardon est procuré par le sang du Fils lui-même, mais troisièmement, c'est un pardon glorieux parce que justement, ça nous rend plus blancs que la neige. Et la phrase nous étonne parce que je suis parfois sorti par des jours de neige juste pour regarder la blancheur en pensant à ce verset. Ou je me souviens parfois sur les montagnes de Grenoble, les stations de ski avec les enfants qui faisaient le toboggan et regardant cette neige. juste en me disant, qu'est-ce qui pourrait être plus blanc que cela? Mais qu'est-ce que ça veut dire que le pécheur brisé qui vient à la croix, qui confesse son péché, est plus blanc que la neige aux yeux de Dieu lui-même? Ça ne veut pas dire juste un changement légal. Il faut que nous comprenions que le pardon est une fonction de l'amour de Dieu envers vous, qu'il vous aime. Et le pardon, c'est le moyen pour vous reprendre dans toute la grâce et la faveur et l'embrasse de son amour, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous pardonnez quelqu'un? Quand vous pardonnez vraiment, c'est pour être encore proche, n'est-ce pas? C'est pour être réconcilié. Vous pensez au fils prodigue. Pourquoi est-ce que le fils le pardonne? Est-ce que c'est juste un fait légal? Oui, tu es pardonné. Non, il tombe sur son cou, il le remplit de baisers. Il dit, donne-moi les sandales, donne-moi la bague, tout le veau gras. Mon fils qui était mort, il est revenu et il est dans l'embrasse de mon amour. Les chrétiens de l'Afrique de l'Est sortaient de ces églises en chantant en swahili que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, en pensant Dieu m'aime tant que cela. Il me reprend complètement comme si je n'avais jamais rien fait. Comment peut-il être comme ça, mon Dieu? Et ça les réjouissait le cœur. Il faut que vous compreniez aussi que le pardon n'est pas juste une chose négative, que Dieu a effacé mes péchés, mais je vous donne deux témoins. D'abord, Osée, qui dit ceci, le prophète Osée. « Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. » Apportez avec vous des paroles de confession et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous. Voilà, c'est pas juste un fait légal, et reçois-nous favorablement. Et Dieu dit, Dieu répond, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. C'est ça le pardon. Et rien de moins. Si c'est moins, c'est pas le pardon que Jésus procure par son sang. C'est absolument miraculeux. Et ces chrétiens africains avaient raison de se considérer comme des miraculés. Tant ils se voyaient dans une faveur complète reçue favorablement, malgré leur péché, en tant que pécheur. Ça alors, c'est incroyable. Quatrième point et le dernier point. Le pardon que nous recevons est un pardon glorieux parce que c'est Dieu lui-même qui nous le révèle et le certifie. Il certifie que ce pardon est aussi grand et parfait que je viens de vous décrire. Alors, pour moi, c'est la chose la plus importante que j'ai à vous dire aujourd'hui, et ça vient du verset 10. Regardez le verset 10. Annonce, David parle à Dieu, et il dit, après avoir dit, lave-moi et je serai pur, il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Qu'est-ce que David est en train de dire? Il est en train de dire, annonce-moi que ça y est, que tu m'as pardonné. Fais-moi savoir que ma requête est exaucée. Révèle-moi que oui, tu as détourné ta colère de moi. Et il dit, mes os qui ont été brisés, c'est une façon de parler de sa contrition, se réjouiront. Je danserai en dehors du culte moi aussi. Alors, qu'est-ce que nous apprenons de cette demande? Annonce-moi. Nous ne pouvons être complètement pardonnés que si Dieu lui-même est satisfait, que ce qu'il exige par rapport à nos péchés a été payé, n'est-ce pas? Et qui peut me dire que lui-même, il est complètement tellement satisfait que c'est mieux que si je n'avais jamais péché? Oui, je viens de vous dire ce que je viens de vous dire. Que le sang et la justice de Christ me donnent une position plus grande qu'un homme qui n'aurait jamais péché lui-même. Parce que ce n'est pas une justice d'homme qui me justifie, mais la justice de Dieu. Le texte nous dit, il est devenu péché afin que nous devenions, aux yeux de Dieu, justice de Dieu. Et ça, c'est une position plus grande. Tous les théologiens réformés ont toujours essayé de montrer que ce que Jésus nous donne n'est pas simplement le retour à ce que Adam aurait pu faire s'il n'avait pas péché, mais il nous donne une position plus grande aux yeux de Dieu. Mais je voulais vous dire que le pardon, je ne peux savoir à quel point je suis pardonné que si Dieu me révèle combien lui, il est satisfait. Et le Père voit une satisfaction parfaite dans la mort et les souffrances de Jésus à votre place. Et quelque chose est arrivé quand cette éclipse miraculeuse s'est passée au moment de la mort de Jésus et personne ne voyait pendant 3 heures. Quelque chose s'est passé entre Dieu le Fils divin et homme et Dieu le Père. Nous ne pouvons pas savoir. Je ne peux pas venir ici vous le décrire. Le Fils est en train de rendre au Père une satisfaction par ses souffrances cruelles et terribles, par l'angoisse de l'enfer. Il est littéralement dans l'enfer. Un enfer éternel et sans fin, comprimé dans quelques heures. Mystère des mystères. Il va au fond du fond. Contrit volontairement pour nous. Et la valeur de ce qu'il a rendu là au Père est tellement grande que nous avons besoin d'une révélation de la part de Dieu pour nous le certifier, parce que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons sentir ou comprendre. C'est une révélation. Nous devons le prendre sur parole parce que nous ne sommes pas capables d'y percer. Et comment est-ce que Dieu a révélé à quel point pour lui l'œuvre de Jésus pour vous à la croix dans ses souffrances est suffisante et plus que suffisante? Eh bien, pour cela, je vous lis Hébreux 13, 20. Hébreux 13, 20 dit ceci: que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Comment est-ce que Dieu le Père a amené Jésus? Il est condamné, il a nos péchés sur lui, il est considéré comme coupable, comme criminel, Dieu le frappe, il est sur la croix. Mais comment est-ce qu'il passe de là au ressuscité, glorifié avec le nom au-dessus de tout nom? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui a pu changer la donne et le ramener de cette position tellement condamnée à cette position tellement acceptée? Et le texte nous dit que Dieu le Père a ramené Jésus de cette position des morts par la vertu de son sang. Ça veut dire tout simplement que ce qui Jésus, avec nos péchés sur lui, les paye tellement quand il se donne, quand il se livre et quand il meurt, que ce paiement, ce sang donné à Dieu, a une telle valeur que Jésus, qui a notre identité sur lui toujours, hein, il est élevé de la position du condamné à celui qui est justifié. En d'autres termes, par la résurrection de Christ, Dieu montre combien le sang de Jésus a pu faire pour lui, Jésus, et donc combien le sang de Jésus fait pour nous. Dans la différence des deux positions de Jésus, nous voyons révéler la différence des deux positions que vous avez. Dans votre culpabilité, vous étiez là à la croix, mais maintenant que vous êtes converti et en Christ, vous êtes dans cette position en Christ, complètement éloigné de la position d'auparavant. Je peine pour le dire, mais vous pouvez comprendre que les chrétiens de l'Afrique de l'Est regardaient le Christ ressuscité comme gage de la mesure de leur pardon. Et ils croyaient tout simplement que la vertu du pardon de Dieu, du sang de Christ, n'était pas ce que nous pouvons imaginer, n'était pas ce que nous pouvons sentir, mais la vertu du sang de Christ pour vous pardonner est révélée dans cette résurrection du Fils de Dieu. Et c'est là que nous devons le voir et non pas ailleurs. Ça les faisait bondir de joie. Ils disaient, si c'est là mon pardon, si c'est là le changement que tu as fait entre moi coupable et moi pardonné, eh bien, que puis-je faire sauf de louer ton nom pour tout, jamais. C'est donc à nous de nous poser la question, si Dieu est tellement satisfait du sang de Jésus pour mes péchés, pourquoi est-ce que je ne suis pas satisfait? En paix et dans la joie. Et c'est là la dernière chose que David dit. Il dit, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Les chrétiens de l'Afrique de l'Est pensaient qu'ils avaient raison, que Dieu veut que nous arrivions à la joie du pardon. Non pas à confesser et dire pendant quelques heures ou quelques jours après, « Ok, je suis un peu plus apaisé, mais bon, oui, je suis un peu craintif là. » Non. Il disait, comme David, « Annonce-nous l'allégresse, annonce-nous la grandeur de ton œuvre pour nous, et nous allons sauter de joie. » Et il disait que si nous n'arrivons pas à la joie carrément, alors il y a justice propre. Nous sommes en train de vouloir payer encore quelque chose de plus nous-mêmes. Nous, ou bien nous sommes en train de lamenter notre justice de bon chrétien perdu parce qu'on a péché. Il y avait une fois dans une conférence un pasteur qui a confessé quelque chose de coûteux, un péché scandaleux qu'il avait commis quelques années auparavant. Et donc, en apprenant ses leçons avec ses chrétiens réveillés, il a su qu'il a dû être transparent. Et donc, il a dit, il a avoué ce qu'il a fait. Et après la rencontre, un des pasteurs a dit, à William Naganda, qui était un des pasteurs ougandais principaux, très sage, on lui a dit, mais c'est formidable que ce pasteur a pu avouer cela. Et William Naganda a dit, je ne pense pas qu'il ait encore la victoire. Et il a dit, mais pourquoi? Il a été complètement transparent. Mais William Naganda remarquait que cet homme était toujours un peu morose, un peu triste. Mais William Naganda a dit que il est en train de lamenter sa bonne réputation maintenant perdue aux yeux de nous tous, n'est-ce pas? Sa justice de bon chrétien Il ne veut pas prendre la place du pécheur qui n'a que la justice de Christ. Il veut être un demi-pécheur, mais être un pécheur complet comme nous tous et n'avoir que Jésus comme justice, il faut qu'il y arrive. Vous voyez combien c'est subtil? Nous devons arriver à la joie d'être vraiment pécheur et vraiment pardonné, quand, brisés à la croix, nous confessons sans excuse. Donc nous devons et pouvons changer le psaume 51, et c'est mon dernier mot, et nous devons le dire comme ceci. Il m'a purifié et je suis pur à ses yeux. Il m'a lavé par le sang de sa croix et je suis plus blanc que la neige. Il m'a annoncé l'allégresse et la joie et les eaux, mes eaux qu'il a brisées, se réjouissent. Il a détourné son regard de mes péchés. Il a effacé toutes mes iniquités. Et je me réjouis donc en lui. Nous allons chanter deux chants qui parlent justement de cet agneau de Dieu et de ce pardon.
Merci.
Donc d'abord, vous avez une fiche.